vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 janvier 1871, la France capitule. À Bordeaux, Léon Gambetta reçoit un télégramme laconique de Jules Favre. Versailles, 28 janvier 1871, 11h15 du soir. Nous signons aujourd'hui un traité avec M. Bismarck, un armistice de 21 jours est convenu. Une assemblée convoquée à Bordeaux pour le 15 février. Faites connaître cette nouvelle à toute la France. Faites exécuter armistice et convoquez les électeurs pour le 8 février. Un membre du gouvernement va partir pour Bordeaux. Depuis l'échec de la grande sortie de la garnison de Paris, début décembre 1870, la situation s'est dégradée dans la capitale. Le froid et la disette se sont accentués. Il y a 30 cm de neige dans les rues. Pour se chauffer, les Parisiens coupent les arbres du bois de Boulogne, dépècent les bancs des boulevards et brûlent les meubles. Pour se nourrir, ils mangent les chevaux, les chats et les chiens. Les plus pauvres dévorent des rats. Le 21 décembre, une nouvelle sortie échoue sous le feu de l'artillerie allemande. Le 5 janvier 1871, le bombardement des quartiers de la rive gauche de la Seine fait une centaine de victimes. La tension nerveuse des Parisiens est durement éprouvée. Président du gouvernement provisoire de la République, Jules Favre souhaite négocier l'armistice. Mais la garde nationale veut poursuivre la lutte à outrance. Le 19 janvier, elle effectue une ultime sortie qui se solde par la défaite de Buzenval. Trois jours plus tard, les gardes nationaux insurgés s'empare de 2000 rations de pain entreposées à la mairie de Belleville. Puis, au cri de « pas d'armistice, guerre à outrance, vive la commune !», ils envahissent la place de grève et ouvrent le feu sur l'hôtel de ville. Les émeutiers sont dispersés, plusieurs arrestations sont opérées, les clubs populaires sont fermés, le gouvernement a désormais les mains libres. Le 22 janvier 1871, Jules Favre dépêche un parlementaire auprès du chancelier Bismarck. Il est porteur d'une demande d'entrevue. À 17h, il quitte le ministère des Affaires étrangères. Tapis au fond d'une voiture, il gagne le pont de Sèvres. Il traverse la Seine sur une modeste barque, avançant au milieu des glaçons. À 20h, il est à Versailles, où il rencontre Otto von Bismarck. Le chancelier du Reich formule des exigences minimales. Il n'impose pas l'entrée des troupes allemandes dans Paris. Il ne revendique pas l'élection d'une assemblée nationale française. Jules Favre reçoit les pleins pouvoirs pour conclure une convention d'armistice générale. Les pourparlers reprennent à Versailles le 23 janvier dans la soirée. La convention est signée le 28 janvier à 22h malgré l'opposition de l'état-major allemand qui espère poursuivre une guerre d'extermination. Elle stipule la conclusion d'un armistice de 21 jours durant lesquels sera élu et réuni une assemblée nationale qui décidera de la paix ou de la guerre. Elle prévoit le maintien des forces en présence dans les départements sur leurs positions respectives. Belfort, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et la Côte d'Or sont exclus de cette disposition. Le ravitaillement de Paris est autorisé. Les forts extérieurs du camp retranché parisien sont évacués. L'enceinte fortifiée de la capitale est désarmée. une contribution de guerre de 200 millions de francs est imposée. L'armée de Paris est dissoute, à l'exception d'une division chargée du maintien de l'ordre. Le télégramme annonçant l'armistice parvient à Léon Gambetta le 29 janvier au matin. Il reçoit le texte de la Convention le surlendemain. Sa douleur et sa fureur sont extrêmes. Dans la soirée du 31 janvier, il lance une proclamation qui exprime son patriotisme blessé. À notre insu, sans nous avertir, sans nous consulter, on a signé un armistice dont nous n'avons connu que tardivement la coupable légèreté, qui livre aux troupes prussiennes des départements occupés par nos soldats et qui nous impose l'obligation de rester 3 semaines au repos pour réunir dans les tristes circonstances où se trouve le pays une assemblée nationale. Nous avons demandé des explications à Paris et gardé le silence, attendant pour vous parler l'arrivée promise d'un membre du gouvernement. Cependant, personne ne vient, il faut agir. Français, songeons à nos pères qui nous ont légué une France compacte et indivisible. Ne trahissons pas notre histoire. Non, il ne se trouvera pas un Français pour signer ce pacte infâme. L'étranger sera déçu. Il faudra qu'il renonce à mutiler la France, car tous, animés du même amour pour la mère patrie, impassibles au revers, nous redeviendrons forts et nous chasserons l'étranger. Léon Gambetta est au seuil de la rébellion. Il hésite, mais sa proclamation s'accompagne d'un décret convoquant les électeurs pour le 8 février 1871. Leur choix est limité, sont déclarés inéligibles les anciens ministres, sénateurs, conseillers d'État, préfets et candidats officiels du régime impérial. Aussitôt, Bismarck proteste contre cette disposition restrictive qui est contraire à la libre élection de l'Assemblée nationale prévue par la Convention d'armistice. En même temps, arrive à Bordeaux Jules Simon, envoyé par le gouvernement provisoire. Il porte un décret de convocation qui supprime toute cause politique d'inéligibilité. Il est soutenu par Adolphe Thiers, dont le prestige est considérable. Il est rapidement rejoint par 3 autres ministres qui renforcent son opinion et lui assurent la majorité. Léon Gambetta a perdu la partie. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire. Un jour, 3 livres qui, comme tradition, a été préparé par Emmanuel. Ce sera même 4 livres aujourd'hui. C'est le groupe américain Toto qui nous accompagne en chanson avec l'un de ses plus grands succès. C'était en 1982 dans son album mythique Toto 4. Nous écoutons Africa.
Say
Vous écoutez Historaba, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, je vous ai dit quatre exceptionnellement. Aujourd'hui, nous commençons par l'ouvrage d'Elisabeth Crouzet-Pauvent, une autre histoire de la Renaissance, parole d'objet, c'est paru aux éditions Albin Michel dans la collection Bibliothèque Histoire. Nous sommes dans l'Italie du XVe siècle. Au rebord d'une fenêtre, un pot de majolique à décor de feuilles et aux beaux reflets métalliques. Venu de la région de Valence, il abrite une plante ornementale. Sur un bureau, à côté de ciseaux, de lunettes, de plumes, un, deux, trois encriers sont disposés. L'un importé depuis la Syrie mamelouque à Venise et de bronze damasquiné. L'autre de verre, plus ou moins précieux, alors que le dernier en faïence a été fabriqué en Italie à Faenza. Sur un lit, des courtes pointes, des couvre-lits, des oreillers empilés. Autour des courtines, une débauche de velours, de taffetas et puis des cordons d'or, des franges et des motifs brodés, du vert, du cramoisi, du pourpre. Accroché à proximité, pour veiller sur les dormeurs, un tableau montrant une Vierge à l'enfant. Plus loin sur le mur, un miroir. Dans la chambre encore, des coffres dont les panneaux peints narrent des histoires et des tapis d'Anatolie du Caire. Dans la grande salle, sur la table installée pour un repas d'apparat et sur le dressoir, une profusion inédite de verreries et de vaisselle. Ces objets sont au cœur de cette enquête. Meubles, tissus, vases et fourchettes racontent une histoire anthropologique de la Renaissance, celle aussi importante que les triomphes des arts et de l'humanisme. Une autre histoire de la Renaissance, parole d'objet, c'est signé Elisabeth Crouzet-Pauvent et c'est publié aux éditions Albin Michel dans la collection Bibliothèque Histoire. Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer. C'est signé Gérard de Cortance aux éditions Albin Michel. En juillet 1960, dans son havre de la Finca Vigia, près de la Havane, Ernest Hemingway éprouve de plus en plus de difficultés à écrire. Fatigué, déprimé, cerné par l'impuissance, il part pour Madrid et ses corridas. Malade, il est contraint de retourner aux États-Unis. Il mourra un an plus tard, dans sa maison de l'Idaho, sans avoir jamais revu Cuba. Nous entrons, grâce à ce roman, dans l'intimité des derniers jours d'Ernest Hemingway et sa dernière épouse, Mary Welsh. Nous découvrons un Hemingway inattendu, attachant, détruit par ses séances répétées d'électrochocs et poussé au suicide par le FBI. Nous savons ainsi pour qui sonne le glas. Il ne rêvait plus que de paysages et de lions au bord de la mer. C'est signé Gérard de Cortance. C'est publié aux éditions Albin Michel. Entre-guerres du général François Lecointre aux éditions Gallimard. Voici un récit écrit à la première personne. Une introspection du général Lecointre. Il y évoque son parcours de jeune officier, de la naissance d'une vocation jusqu'au terrain de guerre au Rwanda, à Sarajevo ou en Irak, et donne à voir l'expérience, l'homme de guerre, dans ce qu'elle a de plus concret, unique et parfois indicible. Jamais un grand chef militaire n'avait évoqué avec autant d'acuité et de lucidité les doutes et les réalités auxquelles se confrontent les soldats. Le sentiment de vivre des événements qui ne peuvent être compris que d'eux. La peur paralysante qui surgit à tout moment et surtout l'interrogation fondamentale sur le sens de l'action. Comment garder son humanité quand au cœur du combat, la violence gagne de plus en plus les esprits, le combat ne m'a pas forgé le cœur et l'âme, il m'a simplement rendu lucide. J'en sais désormais suffisamment pour ne pas me croire préservé par ma simple qualité d'homme du surgissement de l'animal qui gît en moi. Entre guerre de François Lecointre, c'est publié aux éditions Gallimard. Et pour terminer cette chronique, Une femme dans la nuit polaire de Christiane Ritter aux éditions Grands Espaces Libres. Fuyant les tracas de sa vie quotidienne en Autriche, Hermann Ritter part s'établir au pôle Nord pour y mener une vie de trappeur. Son épouse Christiane, parfaite ménagère des années 1930, décide alors de troquer son statut de femme au foyer pour celui d'aventurière du Grand Nord. Malgré la réticence de ses proches, elle débarque à l'été 1933 sur les côtes du Spitzberg, une île de l'Arctique, pour rejoindre son mari dans une pauvre cabane isolée sur une terre hostile et déserte. Après l'angoisse des premiers jours, Christiane fait l'expérience indélébile d'un quotidien intense entre extase et survie. Sur cette terre aux paysages fantastiques, elle découvre la chasse aux phoques, affronte le froid polaire et la violence des tempêtes et se prépare pour l'hiver et son interminable nuit noire. Progressivement, elle développe une véritable relation de tendresse avec cette nature capricieuse qui orchestre chaque élément de la vie et offre parfois le spectacle d'une aurore boréale et d'une famille d'ours polaires. Voici le récit magnifique d'une femme exceptionnelle, Une femme dans la nuit polaire de Christiane Ritter. C'est publié aux éditions Grands Espaces Libre. Voilà pour cette chronique littéraire qui met un terme à cette émission Historama. Nous allons nous quitter en musique avec le groupe américain Toto, son album Toto 4 de 1982 est sans doute l'un de ses plus grands succès. Rosanna, après avoir remercié Thomas qui a réalisé cette émission Historama. We'll be right back.